5h54, Monique est avec nous. Bon, un accident aussi, on parlait de la collision tantôt mortelle en Montérégie, mais il y a un accident à Laval.
Une femme dans la quarantaine qui a été grièvement blessée. L'accident est survenu sur le rang Saint-Antoine cette nuit vers 1h30. On ne connaît pas encore la raison exacte de la sortie de route, mais on comprend que la conductrice a perdu la maîtrise de sa voiture et est venue percuter un arbre. La femme était seule à bord. Elle est dans un état critique présentement. Les enquêteurs qui sont toujours sur place, on n'est pas en mesure de dire à ce stade-ci si l'alcool ou la vitesse aurait pu jouer un rôle dans cet accident.
La famille d'un jeune homme abattu par le SPVM poursuit la ville pour 1 million.
Les proches de Nicolas Gibbs, qui était père de 3 jeunes enfants, réclament effectivement 1 million en dommages moraux et en dommages punitifs. Il faut revenir le soir du 21 août dernier. Les policiers du SPVM sont appelés initialement pour une bagarre dans Notre-Dame-de-Grâce. Nicolas Gibbs est impliqué. À ce moment-là, ils arrivent sur place. Les agents tentent de le maîtriser avec une arme à impulsion électrique, un taser gun, du poivre de Cayenne. Ça ne fonctionne pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont rendu publique cette vidéo hier où on voit une partie de l'intervention. Il n'obtempère pas, mais il est quand même relativement calme, c'est-à-dire qu'il n'est pas agité. Mais c'est clair qu'il ne répond pas aux commandes des policiers qui sont sur place. Et quelques minutes à peine plus tard, le jeune homme de 23 ans est abattu. Je vais vous laisser entendre leur avocate, Maître Virginie Dufresne-Lemire.
La vidéo filme seulement une partie de l'intervention. On voit seulement M. Gibbs avec les policiers. Tout au long, on entend les policiers qui hurlent en français. M. Gibbs qui répond en anglais. M. Gibbs ne parle pas français. Après une minute, il y a 5 coups de feu qui sont tirés. Les 2 derniers coups de feu sont tirés alors que M. Gibbs est de dos. Cette intervention-là, elle aurait dû se dérouler autrement.
5 coups de feu en 5 secondes. Effectivement, on ne voit pas de couteau sur la vidéo. On n'est pas capable de voir. Ils menacent pas, par exemple, les policiers en s'avançant vers eux avec un couteau, comme ça avait été évoqué en août dernier lorsque c'est arrivé. Mais ça demeure flou s'il était armé ou non. Ce que la famille aussi dénonce, Paul, c'est le fait que le SPVM n'a pas respecté la procédure d'une enquête indépendante. C'est-à-dire quoi? Ne pas toucher à rien à partir du moment où il y a blessé grave ou mort en leur présence.
Le SPVM, quand il y a mort d'homme ou des blessures graves, doit transférer le dossier au BEI, doit sécuriser le périmètre et se retirer. On apprend d'une lettre qui a été écrite par Mme Giauque, qui dirige le BEI, envoyée à M. Prudhomme, le directeur du SPVM, à propos de ce dossier-là, que les policiers ont interrogé les témoins, qui ont pris leur déclaration, qui ont eu accès à ces informations-là avant de remplir leur propre rapport et de le remettre au BEI. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. La loi, c'est pas ça qu'elle dit. On comprend les gens qui se demandent si l'enquête est biaisée. Puis on comprend les citoyens qui doutent de la police et du BEI.
Et ce qui est troublant, un peu, c'est qu'on apprend par l'entremise de ce dossier-là que le SPVM aurait fait ça, là, aurait transgressé, si vous voulez, la procédure du BEI dans la plupart des enquêtes indépendantes. Les plus récentes, où ils sont impliqués et qu'ils étaient les seuls au Québec à faire ça, c'est-à-dire à continuer de parler aux témoins, à se parler entre eux aussi, disons-le, avant que les enquêteurs arrivent. Et ça peut donner quoi? Ça peut donner de la contamination de témoignages. On peut s'entendre entre nous avant de rencontrer des enquêteurs indépendants. Et pour ce qui est du cas de Nicolas Gibbs, le rapport du BEI est toujours en cours, donc pas encore complété, et ce sera remis au DPCP dans quelques mois.
Et il y a Richard Bain aussi qui, lui, est en cours d'appel parce qu'il veut faire réduire sa sentence.
Il eut cru qu'il referait la manchette parce qu'on le pensait au pénitencier pour un bon bout de temps. Je vous rappelle qu'il a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré, copié de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 2032, soit 20 ans d'incarcération. Richard Henry Bain, c'est le tireur du Metropolis, là, bien sûr, l'attentat du 4 septembre 2012. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est injuste qu'il ait été traité, si vous voulez, comme un terroriste. Que cette affaire-là a été en grande partie considérée comme si c'était du terrorisme, alors qu'il n'a jamais été jugé pour ce crime-là. Et l'aspect politique a pris trop de place, selon son avocat, dans tout ça. Bain, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait dû avoir une peine similaire à Denis Lortie, qui avait tué 3 personnes au Parlement en 1984, c'est-à-dire la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans d'incarcération. La Couronne, vous aurez compris, est loin d'être d'accord et en rajoute en disant, savez-vous quoi? On devrait le garder en dedans plus longtemps et on devrait l'empêcher de sortir avant 2037.
Non, mais c'est un acte politique. Quelqu'un qui s'en va au Métropolis armé le soir de la victoire du Parti québécois qui vise les gens du PQ, Mme Marois en particulier,
et c'était ça la cible. Qui tient des propos, tout à fait, en ce sens, oui. Mais c'est un peu le tout pour le tout, là, la dernière chance en cours d'appel d'essayer de réduire sa sentence.
Merci, Monique. Pardon, on arrive à 6 heures, je m'excuse. L'autoroute des Laurentides.